Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Ah, les enfants peuvent partir à l'éducation chrétienne. Je vois pas. Ah, tu veux que j'approche? OK, pardon. Hey Ben, tu penses qu'on peut descendre un petit poil, là? Attends. Il fait... OK, parfait. Bon, de toute façon, je suis bien, il fait chaud. Pour cette section-là. Fait que, Père, je te remercie pour la chance que j'ai de venir au pupitre en avant. Je te prie que tu puisses venir rencontrer chaque personne, Père, que cet enseignement-là, ce matin, Père, puisse être un encouragement pour chaque personne, une bonne petite claque dans le dos pour nous montrer que tu es là, Père. Puis merci pour la chance qu'on a d'avoir ta parole pour nous aider à diriger nos vies. Puis, à se diriger dans les bonnes voies, Père. De diriger nos vies dans ce qui est durable puis qu'est-ce qui va durer éternellement. Amen. Ce matin, je veux vous parler... Ah, c'est vrai, il faut que je garde ça proche de moi. Je veux juste tasser deux, trois petites affaires. OK. Ce matin, qu'est-ce que je veux vous partager en introduction? Je veux vous partager sur la persévérance. Puis, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça parce que je vais commencer à vous témoigner. Je veux vous partager le témoignage de ma vie des dernières années. Puis, plus que mes dernières années, puis je veux vous partager tout mon futur, c'est quoi aussi. Puis, ça me dérange pas de dire mon âge, j'ai 34 ans. C'est vieux, hein? J'ai de l'air plus vieux que ça. Il y en a qui me disent que j'ai 45. Mais c'est pas grave. Mais j'ai fait un retour aux études à 30 ans. Puis ça m'a pris plus que 2 ans de faire ce cheminement-là. Puis ça a été des temps quand même très difficiles à retourner aux études. Ça a été un temps où il y a eu beaucoup d'études. C'est un moment toute ma vie où il y a eu plusieurs examens. Je sais qu'il y en a ici qui sont concernés aussi là-dedans. Puis, mais à travers ça, j'avais toujours... Il y avait toujours la même attitude qui revenait dans ma vie. Il y avait toujours la même pensée qui venait dans ma pensée quand il arrivait le temps des examens théoriques, le temps des examens pratiques. Il y avait toujours la même pensée. Puis, tu sais, maintenant, je n'ai pas de misère à vous parler de ça parce que je l'ai vécu, puis c'est dans moi, ça. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de... Je regarde mes notes, là, parce que je ne veux pas oublier rien, là, mais je me souviens que quand je me cisais à mon pupitre à l'école, que j'avais étudié comme un malade pendant vraiment plusieurs heures pour me préparer pour mes examens. Je me souviens que quand j'arrivais, puis que je prenais, le prof, il me donnait mon paquet de feuilles pour mon examen, puis je faisais juste genre feuilleter, tu sais, juste un peu l'examen, puis qu'il, mettons, il y avait 40 questions, il y avait 80 questions, ou Je faisais juste regarder ça, puis quand je vous dis qu'il y avait toujours la même attitude, puis il y avait toujours la même pensée qui me revenait à toutes les fois, je me disais tout le temps que c'était trop difficile, les examens que j'allais faire. Que je me voyais tout le temps, puis il en manquait vraiment pas gros pour que je repogne mon paquet de feuilles, puis que je le remette sur le bureau du prof, parce que j'envoyais des élèves le faire. J'en voyais faire que, tu sais, je me souviens de Guillaume en arrière de moi, que lui était stressé de la vie, il avait un fardeau sur lui, c'était épouvantable. Puis je l'ai vu souvent pogner son paquet de feuilles, puis aller le reporter sur le bureau du prof. Puis je me disais, tabarnak, Guillaume, t'as même pas essayé de le faire. Puis j'avais le même fardeau moutou. Je me disais, je vais retourner voir le prof, je vais lui donner mon paquet de feuilles, je vais lui dire, c'est trop difficile pour moi, je me tasse. Puis j'avais cette pensée-là dans ma tête, puis j'avais une autre pensée et tout qui venait dans ma tête. Il y avait une autre pensée qui venait dans ma tête qui me disait, t'es ici, reste donc, puis t'offre, fais les dons, essaye-les au moins. Tu ne pourras pas dire que tu vas l'avoir lâché avant de l'avoir essayé. Fait que je me disais, je t'cite, je vais monter de chez nous à Québec, pour faire mon examen, je ne retournerai pas chez nous sans l'avoir essayé, puis je t'ai fait. Puis j'ai tout le temps réussi, tout le temps. Mais c'était quand même toujours la même pensée qui revenait dans ma tête. Puis quand les examens pratiques arrivaient à l'école, je me souviens qu'ils appelaient ça des cubicules. On avait chacun un espace, mettons, de 10 pieds par 10 pieds, deux étages. Puis on faisait les fonds de terre, puis on faisait l'élévation, puis tout. Puis je me souviens qu'avant l'examen, j'arrivais en avant de la porte du cubicule. Là. C'était, mettons, des divisions, mais à air ouverte. Là. Je voyais tous les autres élèves qui se préparaient puis qui charriaient le stock, puis tout. Puis je me souviens que je me disais la même affaire encore. Quand j'arrivais en avant du cubicule, puis je le savais qu'est-ce que le prof il venait juste de nous demander de faire, je me disais encore une fois de plus, puis je me l'ai dit à tous les examens, toute la gang. Ne pas une, je ne l'ai pas dit dans ma tête. Je disais, c'est trop pour moi. Je serais mieux de lâcher là puis de pas faire cet examen-là parce que c'est trop. Ça va me demander trop. Puis il revenait encore une autre affaire dans ma tête. Il revenait encore la deuxième voix qui me disait, « Crime, il faut que je l'essaye. Je suis pas monté ici pour rien. Il faut que je le fasse. Ça fera que ça fera, mais au moins, il faut que j'y aille. » Je refaisais, je recommençais mon affaire. Puis en mettant les pieds dedans, je me rendais compte que j'étais capable de toffer puis de faire ce que le prof me demandait de faire. Puis savez-vous quoi? J'ai toujours réussi mes examens pratiques. Tout le temps. Mais il faut tout le temps se battre. Il y a tout le temps deux voix. On a toujours deux pensées. En tout cas, je ne pense pas que je sois tout seul à penser de même. Là. Mais c'est ce que j'ai vécu là-dedans. Puis je vais vous partager aussi d'autres choses. Je vais vous partager mon vécu de mes dernières années, puis mon vécu de mes dernières semaines et tout encore. Les dernières semaines, j'ai changé d'emploi, puis j'étais arrivé à Drummond, de ce chantier où je suis, puis c'est du nouveau pour moi, c'est du jamais vécu. Puis les premières journées, tu sais, j'ai 34, puis tu sais, je suis nouveau. Mais le gars qui me regarde aller, il pense que je suis compagnon, que j'ai déjà mon expérience de fait, qui peut me laisser m'en aller tout seul, me dire qu'est-ce qu'il a besoin de me dire, puis de me laisser m'en aller. Mais moi, je viens juste de tomber deuxième année, puis il faut que je me rende à 8000 pour travailler tout seul. Fait que tu sais, j'ai pas l'expérience, mais je suis quand même confronté d'un côté à me faire dire mon ouvrage, puis à me laisser tout seul toute la journée. Et tabarnouche, je vous le dis, là, les journées que je vous parle de ce témoignage-là, là, j'ai fait de l'insomnie chez nous. Là. Ah, ça a été atroce, sérieux. Là, ça n'a pas été un moment super hot. Puis vous m'adrez à Marie-Ève, elle n'a pas dormi à cause de moi. Mais la deuxième journée que j'ai travaillé pour cette compagnie-là, j'étais sur le toit, encore tout seul. J'étais en train de faire les cheminées pour le gaz naturel puis tout. Puis dans ma tête à moi, le matin, j'avais appelé mon frère Sylvain, puis j'avais exprimé comment je me sentais. J'avais exprimé, puis mon frère Sylvain, il m'a dit, « Pourquoi t'es de même? Crème tough! » T'offres un bout, tu sais, quand on rentre des gars nouveaux à la shop, on lui laisse 2 mois pour savoir s'ils sont bons. Toi, ça fait 2 jours que t'es là, puis tu me dis que si je fais pas la job, ils me mettront dehors. Il m'a dit, là, s'il faut que je monte chez vous pour te botter le cul, là, je vais le faire. Là. Hey, mon frère jumeau, là, je vous le dis, il est pas barré de dire ce qu'il a à dire. Fait que, en tout cas, j'ai dit, c'est correct, c'est loin. J'ai dit, je vais essayer d'être plus optimiste, puis d'être plus positif dans ma manière d'agir, puis tout. Puis, je vais toffer. Il m'a dit, là, une attitude, là, parler de même, là, c'est pas bon. Ton boss, là, s'il te voit parler de même, il va dire, coudonc, il est-tu sûr de lui? Il faut que tu y montes. Même si tu le sais pas, qu'est-ce que tu fais, ou que tu as de la misère, faut pas que tu le montes tough, puis persévère dans qu'est-ce que tu fais. Fait que j'ai dit, c'est beau. Je laisse ça là. Fait que la journée que j'étais sur le toit en train de faire les cheminées, puis tout, le gars qui me drive, c'est à la job, il vient me voir, puis il me dit, en tout cas, il dit, là, il dit, nous autres, il faut qu'on en rentre un autre gars, là. Puis il dit, y en a-tu un, t'en connais-tu un autre bon gars comme toi? Fait que là, je reste bête en crème, là, parce que moi, ça fait à peu près 4 jours que je marche dans mes projections à côté. Puis je me dis que je livre pas la marchandise. Mais de lui, avec son coup d'œil, il voit que j'ai du potentiel parce qu'il me laisse m'en aller tout seul. Puis je vous dirai pas les commentaires que j'ai eus sur l'ouvrage que j'ai fait dernièrement, mais je me suis rendu compte que ça valait la peine que je t'offre. Parce que j'ai passé proche la deuxième journée, je vous dis, la deuxième journée que j'ai travaillé pour eux autres, le matin, en me levant, j'ai failli pas aller travailler. Je me suis dit, à quoi ça me sert d'aller travailler de toute façon? Je fais ça, je fais pas de job. Puis l'après-midi, le gars qui me drive là-bas, il vient me dire ça. Si vous savez comment ça m'a fait du bien de me faire dire ça, là, je me suis dit, tabarnouche, une astuce de chance qu'elle est restée ici. Une chance que j'ai eu de l'encouragement, puis une chance que j'ai persévéré dans ce que j'avais à faire. Puis ça, c'est mon cheminement à moi. Puis dernièrement aussi, ma femme et tout, elle avait d'autres choses. Elle avait une entrevue à faire à son travail pour un nouveau poste. Puis c'était un poste qu'elle voulait. En tout cas, fait que je sais pas, à matin, un petit peu une boule dans la gorge parce que c'est quand même mon cheminement à moi puis tout. Puis j'ai trouvé ça hot cette semaine. Je suis rendu comme toi. Bon. Maria, elle a passé son entrevue. Puis avant de faire son entrevue, elle vient me voir, bien, elle était full démotivée. Puis je me souviens de comment elle me parlait les journées d'avant, puis qu'elle avait hâte d'aller passer son entrevue, puis qu'elle souhaitait avoir ce poste-là. C'est drôle parce que avant son entrevue, elle a dit au Raph, je vais y aller. J'ai dit, crème, tu peux pas. J'ai dit, tu peux pas. Faut pas non plus que tu relâches avant d'aller passer cette entrevue-là. Puis c'est ça que j'ai dit, j'étais sur la job, tout, j'ai dit, je vais prier pour toi. Puis c'est drôle parce que on a attendu, je pense, une semaine et quelques avant d'avoir la réponse, puis tout, puis Marie-Ève était sûre que ce poste-là ne l'aurait pas. Puis quand la fille, elle a appelé pour y parler de son entrevue, elle a dit qu'elle avait le poste. Mais c'est hot parce que une des amies à Marie-Ève, elle a dit, ça n'arrive jamais qu'une fille passe une entrevue puis qu'à sa première entrevue, elle soit acceptée sur un poste. Tabarnak! Puis tu sais, la journée avec Maria avait fait son entrevue, elle était prête à lâcher avant de la voir. C'est pour ça que je vous parle le matin de la persévérance. Parce que, en tout cas, je trouve ça hâte de voir comment est-ce qu'on agit, mais ça me décourage et tout un peu de voir comment est-ce qu'on est. Mais c'est hâte de voir que quand on persévère, on est capable de voir qu'est-ce qui est en avant. Puis, je veux juste faire un petit survol sur mes notes. Là. Je ne veux pas rien oublier, mais c'est ça. Puis, il y a une chose que je veux vous lire. Là. C'est que souvent, avant d'arriver à destination, on a envie de baisser les bras, mais si on fait cela, mais si on continue, attendez, je vais juste relire parce que là, un petit peu, si on continue à marcher, puis qu'on ne se décourage pas, on va voir qu'est-ce que Dieu y avait déposé à la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si vous comprenez, mais souvent, quand on veut se tasser, c'est qu'on est juste sur le bord d'arriver, à la ligne d'arrivée. Puis on n'aura pas eu la chance de voir non plus qu'est-ce que Dieu avait déposé derrière là pour nous autres. Puis ça, c'est un enseignement que ça fait des années que je reçois et que Pasteur Dieu a investi dans ma vie. Souvent, on a tendance à l'oublier, j'ai tendance à l'oublier, mais je me dis, juste avec les expériences qu'on a vécues dernièrement avec Maria, je me dis, crème. On a vraiment failli passer au côté de la traque, pareil. Là. Mais faut quand même écouter. Écouter, tu sais, la deuxième voix là, que je vous dis dans ma tête, là, c'est quand même Dieu qui nous rassure là-dedans. Tu sais, souvent, on a envie de baisser les bras, mais je vous le dis, c'est pas le temps. C'est pas le temps de baisser les bras quand c'est difficile, c'est pas le temps partout. C'est le temps de garder le focus, puis de continuer. Puis, l'autre chose que je veux vous lire et tout, c'est que on dirait que plus que les années, plus qu'on vieillit, plus que les épreuves sont difficiles. Mais c'est faux. Parce que plus que le temps passe, puis plus que notre maturité elle a grandi. Si vous vous comparez les expériences que vous avez passées dans le présent, vous les regardez faciles, mais si vous vivriez toutes les expériences que vous avez vécues dans le passé, vous ne grandiriez même pas. Parce qu'on sera toujours au même stade. Les expériences ne sont pas plus difficiles. Vous avez maturé, vous avez grandi, j'ai grandi. Ma femme, elle a grandi, tout le monde. Dieu nous emmène tout le temps à nous pousser un peu plus loin, mais on a pris de la maturité durant ce temps-là. On est capable. Dieu, il ne permet jamais rien au-delà de nos forces. Il veut toujours nous faire grandir tout le temps. Mais les épreuves ne sont pas plus difficiles parce qu'on a maturé durant ce temps-là. Puis je veux... là, je sais même pas comment j'ai pris de temps, Pasteur Dieu. Je t'empiète-tu dessus? Caroline. Y en a-tu un qui est capable de me dire le temps que j'ai passé? Non? 12 minutes? Je me dépêche. Je vais vous lire sur la foi, OK? Ou je peux le lire une autre fois? Une autre fois? Bonjour de moi. Je vais vous lire Hébreux 11. Je vais me dépêcher, par exemple. Dans Hébreux 11, ça dit... Hébreux 11, 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, je vous lis de quoi que j'ai écrit dans mes notes. J'ai écrit « la foi qui se base sur des faits, sur l'effet de la parole de Dieu, justifie et met en évidence qu'est-ce qu'on ne voit pas. » Je veux juste continuer, là. Je veux vous lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 16, 13. Corinthiens 16, 13, ça dit « Veillez, demeurez ferme dans votre foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Puis, je vais vous lire d'autres choses. Puis, je vais rouler. Là. Je ne t'empiéterai pas trop, Pasteur Jay. OK. Je vais vous lire de quoi? Le domaine de la foi commence là où les probabilités cessent et où la vue et les sens échouent. Je vais vous parler comment que... Où est-ce que Dieu commence à agir, c'est quand nous autres, on ne voit plus. Ou quand on ne comprend plus, puis qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est là que Dieu peut commencer à agir dans nos vies. Tant que nous autres, on va être capable de ramener notre barque tout seul, puis de se démener pour la ramener, il ne pourra pas agir. Mais la foi commence quand que nous autres, on ne peut plus rien faire. Puis ça, c'est quand même encourageant, parce que c'est là que Dieu y est. Il nous attend là. Puis la foi implique une dépendance à Dieu. Cette dépendance à Dieu commence seulement une fois que la dépendance de soi-même cesse. Et cette dépendance de soi-même ne cesse, du moins pour beaucoup de nous, qu'au moment où la souffrance, l'affliction, le deuil, les projets et des espoirs brisés nous font comprendre à quel point nous sommes sans ressources et vaincus d'avance. En tout cas, si vous voulez que je vous le relise ou vous voulez le relire, en tout cas, je peux vous dire le livre que j'ai lu, mais je vous le dis, c'est là, vrai, parce qu'on a besoin de marcher avec la foi dans ce qu'on vit pour garder l'espérance. Puis, il faut croire... Il faut croire en Dieu et nous remettre et remettre notre vie entre ses mains, car maintenant, lui seul peut quelque chose pour nous. Comme je vous disais, de remettre ça dans ses mains à lui. Puis il y a juste lui qui peut de quoi pour nous autres. Puis je voulais juste une chose, mettons, en terminant, en tout cas, j'en ai mille et une, mais souvent quand les épreuves arrêtent, quand les épreuves sont dans nos vies, on demande à Dieu de les arrêter. Puis dans qu'est-ce que je lisais, je lisais que l'auteur écrivait que Dieu il met 100 ans à faire un chêne, puis il met 6 mois à faire une courge. Puis souvent, on demande à Dieu d'arrêter de nous former, mais il est en train de faire de quoi de beau avec nous autres, mais on est en train d'y demander d'arrêter de faire le beau travail qu'il fait dans nos vies. Parce qu'il prend 100 ans à faire un chêne, puis 6 mois à faire une courge. C'est hot pareil. Souvent, on lui demande d'arrêter de faire de quoi de beau avec nous autres, puis de se tasser. Mais c'est pas ça que Dieu veut. En tout cas, j'aurais plein d'autres affaires. Un écrit trop, je le savais quand j'écrivais hier soir. J'étais vraiment parti. Puis, mais c'est ça. C'est ça. Je vais arrêter là. De toute façon, je vais avoir le temps de revenir en avant un jour. Puis je vais juste faire de quoi en finissant. Je veux juste remercier 2 personnes qui sont super précieuses pour moi, cette. Je remercie Pasteur Jules et Stéphanie pour les sacrifices que vous faites pour nous autres. On a souvent tendance à l'oublier, mais si vous ne seriez pas à marcher devant nous autres, moi, je sais que je ne serais pas ici. Puis j'espère que vous ne l'oubliez pas, puis que je veux juste vous remercier, puis vous redonner votre place dans les sacrifices que vous faites pour nous autres. Quand j'étais jeune, j'écoutais Les Petits Bonhommes, puis dans Aladdin, il disait souvent comparé, mais jamais inégalé, tu sais. Ben, Pasteur Dieu, t'es de même. On va essayer de faire ce que tu fais, mais je ne serai jamais capable de t'accoter. Parce qu'il y en a juste un comme toi. Il y en a juste un comme Stéphanie Saint-Ange. Puis j'écoutais une prêche de pasteur Talbot en m'en allant travailler. Puis pasteur Talbot a fait une joke. Puis il est venu un moment tranquille dans la salle. Puis la seule chose que j'ai entendue, c'est le rire que j'entends là. Puis je me dis, calique, c'est pasteur Dieu, ça. Puis c'est quelque chose que je veux pas qu'il change. Je voulais te remercier pour ce que tu fais, puis l'investissement que tu fais, puis les sacrifices que vous faites pour nous autres. C'est ça. Amen.
Et puis me faire rire en même temps. Y avait-tu des choses? Oui, OK. Je me suis arrangé quelque chose pour que ça marche. OK. Hey, merci. Est-ce que vous trouvez que Gilles mature aussi dans sa façon d'apporter la parole? Hein? Trouvez-vous? Amen. On peut l'applaudir pour le remercier. OK, wow! Là, il est 11h55. On va faire la Sainte-Cène aujourd'hui. J'ai oublié la semaine passée. Très bon partage. Gilles va prêcher le dernier mercredi de ce mois ici. Fait que soyez présents, le dernier mercredi du mois de novembre. Donc, ça va être béni. On a la semaine prochaine Pasteur Richard Talbot qui va être avec nous, avec son épouse, j'espère. Et donc, soyez présents avec nous dimanche prochain pour ça. Père, je te remercie pour déjà qu'est-ce qui a été apporté. Aide-moi, Seigneur, à aller droit au but, Seigneur, afin que ma portion puisse compléter la portion de Gilles, Seigneur Dieu, puis qu'on puisse voir, Seigneur Dieu, que dans ce que Gilles a apporté et dans ce que j'apporte, Seigneur, tu étais là à déposer dans nos cœurs ce que tu voulais pour aujourd'hui. Fait que je te fais confiance que tu vas m'accompagner durant ce message. Au nom de Jésus, amen. Alors, je me suis posé la question en préparant ce message-là, c'est quoi l'image d'une personne qui a du succès? Quelle est mon image de ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui réussit ce qu'il accomplit? Est-ce que c'est un fermier qui profite des fruits qu'il cultive? Est-ce que c'est le fruit de son travail qui fait que cette personne-là a du succès? Récemment, j'ai rencontré une personne qui rayonnait. Je la trouvais rayonnante, et puis pour connaître assez cette personne-là, c'est définitivement une personne qui avait passé du temps avec Jésus. Et sa contenance m'a ébranlé. Ça a fait une impression sur moi, et ça m'a montré qu'il y a même des gens qui pratiquent plus que ce que moi j'enseigne ici. T'sais. Je sentais que c'était comme un aimant, où cette personne... je la reconnaissais pour avoir passé du temps avec Jésus. Et elle m'a défié, cette personne-là, parce que c'est sûr que je dis dans mon dernier message que je lutte entre faire pour accomplir puis rien faire pour devenir. Puis je parle sur une série qui c'est une invitation au silence et à la solitude, et c'est une invitation à rien faire, entre guillemets, pour devenir ou pour être devant la présence de Dieu. Finalement, c'est de passer du temps, un montant de temps, une quantité de temps dans la présence de Dieu sans rien faire, puis rester le silence, rester en silence. Et ça, c'est deux tensions qui agissent dans ma vie, c'est que pendant que je suis en train de faire ça, je ne suis pas en train de rien faire. Et puis que, tu sais, cette semaine, j'engageais quelqu'un, je l'ai vu finir en premier dans un exercice qui prenait 2 heures, il l'a fait en 1 heure, j'ai dit, je t'engage, je veux que tu me regardes travailler, je veux te regarder travailler, parce qu'on est quand même dans un monde que... compétitif, puis il faut, d'une certaine manière, essayer d'être meilleur. Tu sais. Mais cette personne-là a quand même challengé ma conception du succès. Parce que dans la vie, il y a les buts qu'on se fixe, puis les résultats qu'on veut avoir. Puis, dans la vie, il y a aussi le but que Dieu a pour notre vie, puis le résultat qu'il veut voir. Et donc, dans Romains 8, au verset 29, ça nous dit que Dieu, dans Romains 8, 29, il nous dit qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils, hein? Qui veut qu'on ressemble à son Fils. Il y a le succès qu'on tente d'atteindre dans ce que l'on fait, il y a le succès que Dieu tente d'atteindre dans ce qu'il fait. Éphésiens 2:10, avant de nous dire que Dieu a préparé des œuvres pour nous, il nous dit qu'on est son ouvrage en Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, vous êtes un succès de Dieu, parce que vous avez été créé dans l'image du Créateur. Et si vous avez accepté Christ, vous avez été créé dans l'image de Jésus-Christ. Cette image-là est comme à l'état brut, un petit peu comme une statue qui n'a pas encore été sculptée, un bloc de marbre qui est encore rugueux, mais qui est appelé à devenir à l'image de quelque chose de très, très fini. Puis Paul va prendre dans ses écrits l'image d'un bébé qui n'est pas encore rendu à maturité, hein, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, comme si l'image de Jésus est là. Chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus, l'image de Jésus est là, mais la présentation mature de la patience, de la joie, de la paix, de la bonté de Jésus-Christ, c'est encore à l'état brut. Puis Dieu doit nous former. Nous sommes son ouvrage. Et donc, devenir un succès, on est un succès, mais devenir le succès que Dieu est en train de travailler, c'est de devenir la personne qu'on est appelé à devenir. Pas juste faire les choses qu'on est appelé à faire. Vous êtes son œuvre pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, mais vous êtes d'abord son œuvre, je suis son œuvre. Et donc, on devient un succès, le succès de Dieu, en se laissant transformer par l'action de Dieu. Et donc, cette personne-là qui m'impressionnait, ce n'est pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, c'est ce qu'elle dégageait. dans Actes au chapitre 4, on voyait les gars de Galilée. C'est une gang de pas instruits. On disait, si tu veux être ignorant, Emmanuel, tu restes en Galilée. Si tu veux être intelligent, spirituel, tu restes en Judée, qui était plus dans le sud d'Israël. Et dans Actes 4, 13, on voit les disciples de Jésus, ces Galiléens-là, et on dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, dans Actes 4, 13, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce n'est pas des gars qui avaient du succès par rapport au monde de leur temps, mais ils parlaient avec une assurance. Ils parlaient, leur comportement, leur attitude reflétait qu'ils avaient passé du temps avec Jésus. Êtes-vous plus attiré par des gens qui ont de l'affluence et de l'influence, ceux qui ont de l'argent puis qui ont réussi à impacter beaucoup de personnes, ou encore ceux qui sont de plus en plus à l'image de Jésus-Christ? Il faut quand même se poser la question. De qui vous souviendrez-vous quand ils seront le décédés, qui feront partie de votre passé, ceux qui ont fait de grandes choses ou ceux qui vous ont aimé beaucoup? De qui vous allez vous rappeler le plus? Les trophées que vous allez avoir ramassés vont être sur des étagères pendant un bout de temps, jusqu'à temps qu'on veuille changer les meubles de cette pièce-là. Hein? Puis quand que vos certificats, vos diplômes, tout ça, vont être mis dans des boîtes qu'on va vouloir rafraîchir la peinture. Mais il y a une chose qu'on va se souvenir, c'est comment vous avez aimé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 13, tout va passer. Mais il va rester l'amour, la foi et l'espérance. Puis la plus grosse de ces choses-là, c'est la foi, l'amour. L'amour. Donc la manière dont vous allez avoir aimé, et le plus important, c'est l'amour. Une personne qui réalise que sans Dieu, elle ne peut rien faire, qu'elle ne peut pas aimer. Puis en passant, ce qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est que ce n'est pas quelque chose à faire, à être plus comme Christ. C'est quelque chose à devenir. C'est quelque chose qu'il y a juste Dieu qui peut faire. Jésus va prendre un chapitre de l'Évangile. Jean va prendre dans l'Évangile, dans son chapitre 15, un chapitre au complet pour nous dire que sans lui, on ne peut rien faire. Il va prendre un enseignement de Jésus sur la vigne et le vigneron. Il va comparer ça à un cep, puis nous, on est toutes des branches et on doit demeurer attachés si on veut porter du fruit. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas de faire des efforts pour devenir un peu plus comme Christ, c'est de demeurer attaché à celui qui vit en nous et qui produit cette vie-là, cette bonté-là, cette douceur-là. Et donc, on doit devenir le succès du vigneron. Verset 9 de ce chapitre-là, il dit « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Verset 12 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et donc, devenir le succès de Dieu, c'est de devenir l'œuvre de Dieu. C'est de devenir Christ dans ce monde. Pas qu'on est Christ, mais que Christ vit en nous et on devient de plus en plus semblable à lui. Le titre de mon message aujourd'hui, donc, vous savez que la série que je fais présentement, c'est une invitation à la solitude et au silence. La semaine passée, le titre du message était « Accepter l'invitation et répondre aux défis ». Si vous ne l'avez pas entendu, je vous encourage parce que dans ce message-là, je cogne à la racine de toutes les raisons pourquoi on n'aurait pas besoin du silence et de la solitude dans nos vies. Fait que c'est sûr que si vous rentrez dans le deuxième message, peut-être vous allez vouloir écouter le premier aussi pour vous donner des raisons peut-être d'accepter l'invitation et répondre aux défis du silence. Aujourd'hui, mon message, ça va être de se laisser aimer par Dieu sans résister. Et donc, le titre du message, c'est « Répondre à l'invitation ». C'est la semaine passée, répondre. Aujourd'hui, c'est « Commencer ». Vous pouvez lire des livres sur la solitude, la méditation, sur le silence. On peut lire des choses, on peut écouter des messages. Peut-être que pendant les 3-4 prochains messages, je vais parler de ça, puis qu'à chaque fois, vous allez voir le train passer, vous allez dire, j'aime ça, il me semble qu'il y a une vie plus profonde avec Dieu que je pourrais aller chercher, puis vous regardez le train. Puis là, je vais revenir, je vais reparler la semaine d'après, puis vous allez sentir bien d'en entendre parler. Vous allez sentir qu'il y a un trésor là dans la solitude, dans la présence de Dieu, juste solitaire avec Dieu. Mais vous allez regarder, on est bon pour lire des choses, entendre des choses, ça. Mais là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de commencer. Commencer et reconnaître la résistance qu'il y a dans chacun de nous pour l'exercice du silence. Alors, la semaine passée, OK, donc le silence qu'on veut dire par là, c'est d'arrêter toutes nos occupations et faire le silence pendant une période donnée de temps. Donc, je l'ai défini. La semaine passée, on a vu qu'il y avait des défis, et un des premiers défis que j'ai cogné dessus, c'est que nous, les chrétiens, on a peur du vide. On a peur du vide parce qu'on se dit, ah, les religions de l'Est, ils disent de faire le vide, là, puis tu sais, c'est ce nouvel âge, le vide. T'sais. On a lu au moins une douzaine de versets qui nous disent, faites le silence devant Dieu. Et on a vu que c'était à nous de garder ce qui avait été emprunté par les religions de l'Est, puis garder ça dans notre christianisme. On a vu que le christianisme évangélique protestant, c'est une religion ou un mouvement, si on peut dire, si vous n'aimez pas le mot « religion », ou un groupe de gens qui se sont identifiés à un système de croyance qui est très activiste et très basé sur la parole. Et on a vu que c'était très bien parce que c'est ça qui nous a gardé des erreurs du catholicisme romain. Par contre, on n'est pas des très grands contemplateurs, des gens qui restent en silence devant Dieu puis qui vont contempler Dieu dans sa création. Et donc, on a besoin de regarder ça dans amener ça dans notre culture chrétienne. On a vu qu'il y avait un défi culturel parce qu'on est toujours dans du bruit, on a toujours du bruit. On a vu que c'était aussi un défi relationnel parce qu'on est toujours connecté tout le temps avec tout le monde. On est toujours, toujours connecté et de dire que je vais prendre un temps juste pour arrêter, c'est un défi qui est relationnel. C'est psychologique aussi parce qu'on est habitué à ce que ça bouge tout le temps, d'avoir toujours du bruit, qu'on n'est pas capable de voir tout à fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un défi spirituel aussi parce que Satan s'attaque beaucoup à nous. Et lorsqu'on va dans le silence, on commence à voir les sources de nos mauvaises actions puis nos erreurs dans notre vie. Puis ça s'attaque directement aux activités de l'ennemi. Et donc, c'est attaqué spirituellement. C'est avec l'aide de l'histoire d'Élie qu'on suit cette série-là. C'est dans 1 Roi, chapitre 19, pour vos notes personnelles. Et on a vu dans le dernier message que c'est rare quelqu'un qui dit « J'ai un désir pur pour la présence de Dieu. » Non, il va comme Gilles nous a dit dans son message, qu'on a tout essayé, qu'on a été laissé vide, puis c'est le sentiment de notre pauvreté intérieure qui fait qu'à un moment donné, on dit, sais-tu quoi? Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer comme toi. Seigneur, je ne suis pas capable de persévérer. Fait que finalement, je viens à toi parce que moi, je ne suis pas capable de persévérer. Fait que c'est le sentiment que notre compte qui commence à arriver dans le rouge, qu'on s'en va à Dieu, que lui peut tout, puis sans lui, on ne peut rien faire, mais avec lui, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas un désir pur de sa présence, qui nous amène à sa présence, c'est le sentiment d'en manquer si on n'y va pas là. Donc, c'est notre pauvreté et notre misère qui nous conduit là. Par contre, ce n'est pas obligé d'être comme ça. Mais aujourd'hui, dans mon message, on va voir qu'on a une résistance en nous d'aller à Dieu tant qu'on peut faire quelque chose. On a une résistance à aller à Dieu tant qu'on va pouvoir fonctionner sur notre propre case. Et c'est pourquoi les gens, avec raison, ont appelé le christianisme une béquille de la faiblesse. Le problème, ce n'est pas la religion qui est une béquille, c'est que l'homme est autonome et indépendant de Dieu. Et c'est souvent juste dans la crise qu'il se tourne vers son Seigneur. Donc, on va parler de commencer une discipline, on va parler de moyens pratiques pour avoir des périodes de silence régulières dans nos vies. Encore une fois, si je vous dis quelque chose qui ressemble à une méthode, c'est pas sacralisé, ça veut dire que ça ne dit pas « la Bible dit qu'il faut que tu le fasses de cette manière-là ». Par contre, je vais vous donner quand même un petit peu de coaching. Ça fait plus qu'un an que je pratique ça. Parce qu'on a tellement une résistance intérieure et extérieure que c'est le genre de choses que si je ne reviens pas la semaine prochaine, juste pour vous en reparler un petit peu, moi, à votre place, je ne continuerai pas dans cette démarche-là. À moins d'avoir été accompagné pendant des mois par une femme qui s'appelle Ruth Haley Barton, avec son livre « Invitation à la solitude et au silence », duquel je m'inspire pour faire cette série-là. À moins que j'aurais revenu des heures et des heures pour réécouter, pour dire, il faut que je me remette sur la traque, il faut que je me remette sur la traque. J'aurais perdu, il y a trop de résistance pour pratiquer cela. Donc, ce que je vais te parler, ça ne sera pas des ainsi dit le Seigneur. C'est, voici certains conseils, des moyens pratiques que vous pouvez faire. Encore une fois, si vous dites, c'est pas pour moi, c'est pas le temps, écoutez simplement, laissez-vous inspirer, puis sachez qu'il y a une mine d'or là, puis vous pourrez y revenir quand vous serez prêt. Ça marche? Donc, c'est pas pour faire partie de l'Église Grâce et Vérité, vous devez faire le silence 3 fois par jour, 10 minutes après le repas. Puis il faut que vous preniez une journée par semaine off, puis sinon, là, vous ne rentrez pas dans le moule. C'est pas ça du tout, OK? Ça marche? J'ai aussi dit dans mon dernier message que je faisais cette série-là pour moi. Je suis dans un défi présentement aussi parce que, je ne peux pas arrêter une fois par semaine non plus dire j'arrête une journée, là. Fait que je suis dans un défi moi-même de saisir cette discipline-là. Je la pratique présentement, puis de la garder. Fait que si je suis obligé d'enseigner là-dessus, ça veut dire qu'il faut que j'étudie une dizaine d'heures sur ce sujet-là à chaque semaine pour vous l'apporter. Et en ça, ça me fait beaucoup de bien. Et donc, je suis capable de garder le cap, garder le niveau, puis de pouvoir aussi bénir l'Église dans une pratique que je chéris beaucoup. Des bonnes raisons pour commencer à faire le silence de façon connue, d'un temps déterminé, de façon fréquente, au moins une fois par jour, eh bien, ça fait taire les bruits et ça élimine les distractions de nos vies. Le silence, c'est un besoin. Le silence, on en a besoin pour donner une attention non divisée. Un mari et une épouse qui se regardent dans la chambre à coucher, qui ferment la porte, puis qui vont se consacrer l'un à l'autre et être intentionnels dans ça, il va falloir qu'il y ait une porte qui se ferme et qu'ils se retrouvent seuls. Eh bien, notre Dieu, l'intimité de sa présence, demande à ce qu'on puisse faire fermer les distractions de nos vies pour se donner l'un à l'autre une attention non divisée. La Bible a dit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Il y a une connaissance de Dieu qui ne se passe pas en jogging, ni en conduisant ton véhicule, en écoutant un message pendant que tu roules en auto. Il y a une connaissance de Dieu qui se connaît quand tu arrêtes. Quand tu fais le silence. Arrêtez et c'est là que tu vas savoir que Dieu est Dieu. Une connaissance qui vient, une connaissance de Dieu qui vient seulement quand on prend le temps de s'arrêter. Au verset 12 de ce même chapitre, il dit « L'Éternel est le maître de l'univers et il est avec nous. » Savez-vous que c'est un fils de Corée qui a écrit ça? Pourtant, les descendants de Corée étaient supposés d'être engloutis par la terre vivante parce que Corée, c'était la famille de Corée, c'était les serviteurs dans la maison de l'Éternel, sous les sacrificateurs, puis le grand prêtre. Donc, il y avait le grand prêtre, les prêtres, puis les serviteurs du temple. Les fils de Corée étaient des boulangers, étaient des gens qui dirigeaient la louange, avaient plusieurs classes de serviteurs dans la maison de Dieu. Puis Corée, à un moment donné, il a dit, « Dieu ne parle pas juste par Moïse, puis par les prêtres là, qui sont en haut, il peut aussi parler par nous. » Donc, il y a pas, ça n'existe pas des classes puis des séparations. Puis il est arrivé, peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, mais on appelait ça la révolte de Corée. Dieu dit, OK, on va voir si c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, il y a eu des tests qui ont été faits, comme une verge qui a été amenée, puis une verge qui a fleuri, puis les autres n'ont pas fleuri. Il y a eu des tests comme ça qui se sont faits. Et Dieu voulait montrer qu'il s'était attaqué à l'ordre que Dieu avait établi. Et il a dit à tout le peuple d'Israël, séparez-vous de la famille de Corée, parce que la terre va les... Vous ne voulez pas être proche de cette famille-là, il va se passer quelque chose finalement. Puis, les descendants de Corée, normalement, c'était effacé de sa surface de la terre. Mais pourquoi les fils de Corée composent des psaumes ici? Ils composent des psaumes parce qu'ils ont pris le temps d'arrêter de savoir que Dieu était Dieu. Ils ont été capables de discerner que mais moi, je ne m'associe pas à ce qu'ils viennent de dire. Ils se sont séparés avec les autres, puis quand la terre s'est ouverte, puis qu'ils ont été engloutis tout vivants, eh bien, les fils de Corée, ils n'ont pas tout passé, finalement. Parce qu'ils ont pris le temps d'écouter ce que Dieu avait donné comme avertissement. C'est intéressant, hein? Dans Actes 17, verset 28, on a besoin de réaliser qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On a besoin d'arrêter et de dire, « Hey, c'est-tu quoi? Je ne marche pas sur mon gaz. Si je vis aujourd'hui, si je respire aujourd'hui, c'est à cause de celui qui me donne la vie. C'est lui qui maintient toute chose par sa parole puissante. Il me tient en vie aujourd'hui. C'est de lui que j'ai... Mon mouvement, c'est lui que j'ai la vie et l'être. On a besoin du silence pour avoir une pensée concentrée sur Dieu. Dans Actes 17, verset 26, il y a quelque chose qui est vraiment beau dans ce verset-là qui nous montre qu'on a été créé avec chacun d'entre nous, croyant ou non, un désir pour Dieu. Dieu a placé dans chacun des êtres humains un désir pour lui. Et dans Actes 17, 26, c'est écrit, « Dieu a fait que tous les hommes issus d'un seul sang cherchent le Seigneur et s'efforcent de le trouver. Un effort est fourni parmi tous les humains. Dieu a mis dans le cœur de chacun des hommes de faire un effort pour trouver Dieu puis de le trouver. En cherchant, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Toujours dans le même chapitre de Actes 17, versets 27 à 28. Dans Jean 12, 32, il dit, « Quand Jésus sera élevé, il attirera tous les hommes de la terre à lui. » Jésus a dit, « J'attirerai tous les hommes de la terre à moi. » Jésus attire tous les hommes. Il y a quelqu'un à Radio Ville-Marie qui posait la question, « Si Dieu attire tous les hommes à lui, pourquoi tous les hommes ne sentent pas cette attraction? » Et j'ai aimé ce que le gars a dit. Il a dit, « Imaginez que dans les, il y a plein de radios dans une pièce, puis il y en a une, c'est la voix de Dieu. Puis, c'est pas fort. Puis, il dit, dans la pièce, il y a plein d'autres radios. De la musique, des nouvelles, toutes sortes d'affaires. Ça veut-tu dire que parce que l'homme n'entend pas la radio de Dieu, la voix de Dieu, que Dieu ne parle pas? Fait que le gars à la radio dit, non, t'as raison. Mais il dit, ce que Dieu nous amène à faire dans nos vies, c'est de fermer les postes. Éventuellement, on va l'entendre nous parler. Et j'ai vraiment aimé ça. Je ne parle pas juste de solitude. Peut-être que vous avez de la difficulté à la solitude, on va en revenir plus tard. Mais le silence qui complète la solitude. On ferme les radios, peut-être de toutes nos distractions, mais il faut aussi fermer la radio de toutes nos pensées qui... nos fabrications humaines, nos raisonnements humains, nos craintes, nos anxiétés, tout ce qui voyage dans notre tête, de faire taire tous ces postes-là pour se concentrer sur un poste qui est plus sûr, qui est la parole, qui est ce que Dieu veut nous communiquer. Je vais en profiter pour me moucher. C'est une blague. C'est aussi pour cesser de prendre le plancher. Parce qu'en dehors de ce temps-là, on contrôle notre navire. Hein? On navigue notre navire, on mène notre barque, tout ça. Vous remarquez quelqu'un dans une discussion qui parle tout le temps? C'est souvent une personne qui prend le contrôle de où est-ce que la discussion va aller. Hein? Ce n'est pas nécessairement mal, il y en a qui y trouvent leur compte. Steph aime bien ça être avec des gens qui parlent parce qu'elle n'est pas obligée de parler. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont bien avec des gens qui parlent, c'est comme ils sont bien en arrière, observateurs. Tu sais. Mais quand on va même prier, si on est toujours dans un mode de parler à Dieu, c'est quand même nous autres qui dictent qu'est-ce qu'on veut avoir de Dieu. En passant, la série que je fais, ce n'est pas sur la prière. La prière consiste essentiellement à demander des choses à Dieu, OK? Ce n'est pas non plus une série sur la méditation sur la parole de Dieu. OK? Fait que je sais, il y en a qui rushent. J'ai entendu des commentaires là, après mon dernier message. Ça rush, ça lutte, là, tu sais. Parce qu'on n'est pas confortable avec ce silence-là. Ce n'est pas de la prière, ça ne remplace pas la prière. Le pasteur n'est pas en train de dire ici, on ne demande plus rien à Dieu, on fait juste faire. T'sais. Non. C'est une préparation peut-être pour la prière. Ce n'est pas la méditation de la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a à nous dire dans la Bible. Ça n'a pas pour but ça. Ça a pour but de faire le silence devant Dieu. Point. C'est pas en train d'être comparé avec la prière. C'est pas en train d'être comparé. C'est pas mieux que la prière. C'est pas mieux que la lecture biblique. C'est juste... c'est pas comparé à d'autres choses. Ça va? C'est important que je dise ça parce que vous... il y a une réticence. On a une réticence, puis on se dit, Colin, c'est pas qu'est-ce que je vais dire dans ce temps de prière? On va parler des réticences, justement, un peu plus tard. OK? Donc, cessez de prendre le plancher, parce que quand tu es avec une personne, puis tu dis, ah, là, je vais arrêter de parler, puis je vais commencer à écouter. Il se passe quelque chose dans la discussion. Le centre, c'est plus toi, c'est l'autre. Tu es en train de donner à l'autre plus de place. Et peut-être que si on prendrait l'idée qu'il faudrait faire le silence devant l'Éternel, quand on va s'approcher pour prier, on va aussi s'approcher pour écouter. On va peut-être avoir la réponse dans notre lecture qu'on va faire après, parce qu'on est tombé dans un mode plus recevoir qu'un mode toujours de contrôler qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut que Dieu nous aide. Puis on va tomber plus dans un mode de réceptif à Dieu. Donc, c'est abandonner le contrôle de la discussion, s'ouvrir aux initiatives de Dieu et créer de la place pour les actions de Dieu dans notre vie. Richard Foster, qui a écrit un livre, Les disciplines spirituelles, dit « Les disciplines spirituelles sont le moyen principal par lequel nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous faisons ce que nous pouvons avec notre corps, nos pensées et nos cœurs. Dieu alors prend la simple offrande de nous-mêmes et fait avec elle des habitudes intégrées de paix, d'amour, de joie par le Saint-Esprit. » Donc, nous, on a juste besoin de se présenter. Dans le temps que je vous parle, c'est qu'on se présente devant Dieu puis on laisse Dieu faire le reste. OK? L'instrument de mesure, ça ne sera pas « Hey, j'ai passé une heure en silence devant Dieu. » Ça ne sera pas ça. L'instrument de mesure, ça va plutôt… ça ne sera pas non plus ce que tu vas produire pendant, parce que tu ne produiras pas grand-chose. Ça va avoir de l'air très inutile, cette affaire-là. Ni ce que tu vas faire de mieux après. Ce n'est pas un moyen pour faire quelque chose d'autre, c'est pour être dans la présence du bien-aimé. Et ceux qui sont en amour savent qu'on peut être dans la présence de quelqu'un qu'on aime sans lui parler et apprécier cette communication, un amour qui dépasse les mots. Un bébé qui est allaité, il n'a pas besoin que la maman lui parle. Il y a un contact qui est là, il y a un contact visuel, tu es juste dans la présence de l'autre puis tu es bien. Des fois, c'est juste quelqu'un qui est dans la maison puis tu dis « quand il n'est pas là, je ne me sens pas bien ». Il y a comme cette idée de juste être dans la présence de celui qui est aimé. OK? Et donc, l'instrument de mesure, ce ne sera pas ce qu'on va produire après, c'est de se présenter devant Dieu et le laisser faire le reste. Le moyen, c'est de se rendre disponible à Dieu pour l'intimité de sa présence puis le travail de transformation qu'il veut faire en nous. On a dit que ce n'était pas un message sur la Bible, mais on m'a parlé de Dieu. Je fais confiance aux mots qui m'ont été donnés de ce Dieu-là, mais maintenant, je fais confiance à celui dont les mots ont été dits. C'est simple, hein? C'est simple. 10 minutes, je ferme mes yeux, je prends le temps de bien respirer, puis je suis juste là, ici, maintenant. C'est simple, mais c'est difficile. C'est difficile parce que celui qui veut commencer à pratiquer ça, le silence, il va trouver plusieurs résistances en lui. Premièrement, il va trouver sa propre nature mortelle parce qu'il est habitué à faire tout sans Dieu. Il est habitué à naviguer pour son propre navire tout seul, fait que de juste s'arrêter puis de rien faire. Il va trouver en lui une résistance. Là, il y a plein de choses qui vont devenir alors des priorités. Tout d'un coup, il y a du lavage à faire, il y a des lunchs à préparer, il y a toute la liste des choses que tu n'as pas eu le temps de penser durant la journée qui te ressortent. Ça ressort, mes amis. Toutes les choses non gérées de nos vies, souvent, ils vont tout repopper comme ça. Il y a plein de choses qui vont devenir prioritaires et donc des problèmes aussi qui remontent à la surface. Puis il y a un genre de cynisme. Le cynisme, c'est une moquerie quand tu ne veux pas faire quelque chose. Il n'y a rien qui va se faire pendant que j'arrête. Il n'y a rien qui va se faire. Pour surmonter tous ces obstacles-là, la discipline et la volonté de persévérer vont nous aider. Et les messages qui vont revenir de régulièrement, qui vont servir un petit peu de conseiller les enregistrements que vous pouvez reprendre à l'audiovisuel pour les réécouter, ils vont servir de conseil d'accompagnement. Et éventuellement, vous allez entendre de quelqu'un, peut-être vous le pratiquez. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et m'a dit... Les gens à mon travail me disent « Comment tu fais pour garder le cap avec toute la tension qu'on a au travail? » Elle dit « Le matin, je m'en vais à ma cafetière, j'allume mon café, je m'en vais masser, puis je prends 15 minutes dans le silence. » Puis elle dit « Je le vois, là, je pratique ça depuis des années, ça me fait du bien. » Alors, il y a des gens qui vont nous dire que c'est bon, il y a des gens qui vont nous dire que c'est bénéfique, puis ils vont nous dire « Veux-tu que j'aille chez vous te donner un coup de pied dans le derrière? » pour te dire que ça continue, tu es sur le bon chemin, ça va marcher un peu comme le témoignage de Gilles. Okay? Donc, ça va servir de ça. OK, des moyens pratiques. Trouver une place propice pour le faire. Le lieu où que vous allez vous asseoir en silence, de préférence les yeux fermés. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être distrait. On va parler de la distraction un peu plus tard. C'est un lieu qui n'est pas... habituellement associé à du travail. Fait que si vous travaillez à un ordinateur ou quelque chose, trouvez un autre lieu. Un lieu qui n'est pas associé à produire, faire des choses. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez mettre de l'ambiance, que ce soit de tamiser les lumières ou les fermer complètement, ou vous fermer un rideau. Il y en a que ça va être au contraire, ils font leur luminothérapie pendant ce temps-là. T'sais, on est au mois de novembre, justement. Il y en a qui ont besoin de plus de lumière un peu, fait qu'ils se mettent une lumière d'en face. Ça peut être le contraire, ça peut être de la lumière. T'sais. Mais On ne se prépare pas pour autre chose présentement. C'est un temps qui nous est permis pour se reposer dans sa présence. Deux, décidez de combien de temps vous allez passer. Commencez avec un but raisonnable, 10 minutes ou moins. Mais ça n'a pas besoin d'être long, ça a besoin d'être pratiqué régulièrement. Okay. Troisièmement, portez attention à votre corps. C'est sûr que j'avais le goût de faire venir un lazy boy ici, puis de vous montrer qu'est-ce qui n'était pas approprié. Là. Moi, c'est sûr que tu me donnes ce lazy boy-là, puis dans 5 minutes, je m'endors. Là. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement de s'endormir dans ça, parce que tu te donnes la permission de te reposer, mais c'est quand même un endroit où tu veux passer du temps dans la présence de ton Seigneur. Ton corps, c'est ta principale distraction. Après que tu aies enlevé toutes les distractions, ton corps quand même demeure cela. Fait que de s'assurer droit, de s'assurer dans une posture quand même qui est réceptive. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, quand on parle avec quelqu'un, on sait quand il n'est pas réceptif. Donc, il y a une posture qu'on peut se donner qui est moins, les pattes. Assieds-toi droit, mets tes pieds planches à terre, puis prends des bonnes respirations. La respiration, c'est fou comment ça donne de la concentration. J'ai remarqué, moi, que je respire jamais en profondeur, à moins que je me dise de le faire. Eh bien, durant ce temps-là, c'est un temps où je vais respirer à peu près 2 fois la minute. C'est-à-dire que je vais prendre, puis je vais expirer doucement. Et là, on dirait que les cerveaux et les cellules qui marchaient sa survie, là, ils s'éteignent, là, tout, ils se rallument. Mon temps, après ça, de concentration durant le restant de la journée, beaucoup plus attentionné, ma lecture, les autres tâches que j'ai à accomplir. Donc, le rythme de vie qui est très rapide en 2016, c'est un rythme où on est des respirateurs de surface. Puis on ne fonctionne pas pleinement, on n'est pas tout à fait pleinement là. Donc, vous allez trouver un grand bénéfice à faire ça. Donc, portez une attention à votre corps, à la manière de respirer, la façon que vous vous placez. Quatrièmement, faites une prière courte qui exprimera bien qu'est-ce que vous voulez accomplir ou qu'est-ce que vous voulez que Dieu accomplisse durant ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on a plein de nos pensées, c'est comme des papillons. Quand on ne pense pas à grand-chose, on va penser à quelque chose de toute façon. Fait que ce qu'on veut faire, c'est comme une prière. Puis attention, ce n'est pas une prière redite. Parce que là, je sais, je suis enregistré sur Internet. Là, puis là, je vous dis des choses que dans une église évangélique, on ne va peut-être même pas jusqu'à ce détail-là. Okay? Je l'ai dit tantôt, c'est des conseils. Ce n'est pas « ici la parole de Dieu dit ». La Bible a dit dans Matthieu 6, évitez les vaines redites, les mots, les mantras, là, les paroles qui sont dites. Puis à force d'être dit que tu penses que Dieu va finir par comprendre quelque chose, ici, c'est pas ça. C'est une prière qui va bien exprimer ton désir de ce que tu veux accomplir ou que tu veux voir Dieu faire durant cette période-là. Mais c'est une prière que tu vas redire quand tu vas sentir que tes petits papillons sont en train de s'en aller dans ton épicerie ou dans tes autres affaires que tu as à faire ou que ton passé. Okay. Par exemple, puis me voici, Père. Montre-moi ton amour. Aide-moi à être concentré durant ce temps. Puis là, à un moment donné, oups, t'es rendu dans ton épicerie. Tu dis, Seigneur, aide-moi à être concentré durant ce temps. Tu reviens, tu ramènes ton papillon. Tu dis, non, toi, tu t'en viens ici. OK, donc, cinquièmement, ne soyez pas subjectif. Ça arrive souvent des gens qui vont prendre un genre de week-end de silence ou des gens qui vont prendre encore une longue période là, de jeûne ou de prière. Ils ont l'impression qu'ils vont sortir de la semaine et qu'ils n'ont rien accompli. Ils vont commencer à... Ça fait-tu quelque chose, finalement? Ne soyez pas subjectif. Le but, c'était d'être dans la présence du Seigneur puis de grandir là-dedans. Là, il y a des pensées qui vont dire, « J'ai rien vécu. Dieu ne m'a rien montré. » Ah, ça, c'est pas mon genre, ce que Jean-Sébastien nous enseigne, là, ou ce que ça, cette pratique-là. Vous allez le laisser, vous allez dire, c'est pas mon genre. Moi, je suis plus un gars d'action, une fille d'action. N'oubliez pas que c'est un sentier de découverte et que donnez-vous la chance de découvrir ce que vous n'avez pas encore reçu nécessairement. C'est un excellent tremplin pour continuer après à prier pour vos familles et d'être totalement présent dans cette activité-là et de lire aussi. Quand vous terminez, soyez simplement reconnaissant. Remerciez le Seigneur pour le temps que vous avez passé. Donc, des petits conseils pratiques qui vont faire que ça va vous aider. On va continuer et terminer le message avec ça. C'est, je veux qu'on reconnaisse ensemble la résistance. Donc, là, il est 11h30. Je vais me donner jusqu'à à peu près 35, puis on va préparer la Sainte-Sainte. Les autres résistances, je n'aurais peut-être pas toutes développées. Je vais en parler durant le temps de dîner. La première chose que vous allez trouver quand que vous allez commencer à faire le silence, si vous le faites, vous allez trouver de la résistance. Jésus, quand il est allé au désert, il a trouvé des bêtes sauvages. C'est écrit que Jésus a été dans le désert avec les bêtes sauvages. Plus tard, dans le désert, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Satan est venu et souffleté toutes sortes d'insinuations. Qu'est-ce que sont ces insinuations-là? Qu'est-ce que va être nos résistances? Ça va être nos soucis de toutes nos responsabilités. Aussi les incertitudes en rapport avec ce qu'on va expérimenter. Dieu, il est comme la personne qui nous attend à l'aéroport. Ça fait longtemps qu'il nous attend. Puis il est content de nous voir. On est content aussi de le voir, mais on sort de notre avion puis on a tous nos bagages avec nous autres. Puis il essaie de nous faire un câlin, tu sais, mais on a comme plein de bagages dans nos bras. Puis là, on dit que, Seigneur, je m'en viens dans ta présence, mais comment je vais me débarrasser de ces bagages-là pour que je puisse vraiment communier avec toi? Et donc, c'est les incertitudes en rapport avec ce qu'on va expérimenter. Tu veux être avec moi, mais on va faire quoi? On va dire quoi? Puis je l'ai entendu de d'autres. En passant, il y a des gens qui m'en ont parlé de ça, là, de cette lutte-là à l'intérieur, suite à mon message de la semaine passée. Puis je me suis identifié à ça, parce que c'est les mêmes voix que moi aussi j'ai dans ma tête. Il y en a qui sentent qu'ils n'ont même pas le droit de se reposer puis d'arrêter. Savez-vous que vous avez le droit, mais en plus de ça, c'est demandé par Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ce n'est pas seulement que vous avez le droit, c'est que ça vous est demandé. Une des raisons pourquoi Israël a été amené en déportation, c'est qu'il ne respectait pas les sabbats. Ces périodes de temps pour arrêter. Produit, il faut que tu produises, produire. Et là, Dieu dit, ah, la terre a été puisée. Fait que je vais vous amener en déportation tant d'années que la terre n'a pas été reposée. Fait qu'il n'a pas gagné au change au bout de la ligne. Non seulement vous avez le droit de vous reposer, mais ça vous est demandé. Vous n'êtes pas une machine, puis vous n'êtes pas l'outil du dernier tiroir du Seigneur pour qu'il fasse quelque chose avec vous. Il veut prendre soin de vous. Dans 1 Pierre 5, 7, Dieu offre de prendre nos valises. Il nous offre, Dieu offre de prendre nos valises. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? La première affaire, c'est qu'on rentre un petit peu comme... on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Dieu. On rentre, on se trempe leur tête. Le mieux, c'est de sauter à pieds joints comme moi dans ma piscine à 42 degrés hier. Saute d'un coup. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans ce temps de silence-là, puis on va juste rentrer, mais on va rentrer avec nos soucis. On ne les mettra pas de côté, on va rentrer avec, puis on va dire, Seigneur, sais-tu quoi? J'ai eu l'impression que je suis tout seul avec ma chaise dans ma pièce. J'ai peur d'être seul. Que j'ai de la cave un peu, là, j'ai les yeux fermés, puis je ne fais rien. Ça peut être juste ça. Ça peut être de dire, Seigneur, sais-tu quoi? J'ai peur de m'endormir. C'est trop calme. J'ai peur de m'ennuyer, ça va être plate. Seigneur, j'ai peur que ça soit plat. J'aimerais mieux jouer avec mon jeu vidéo ou aller sur Internet ou faire tout. Tu sais, qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine? J'ai peur, Seigneur, que ça ne sera pas profitable. J'ai peur, Seigneur, que le temps que je vais passer là, après ça, moi, je vais redoubler mon ouvrage là, parce que j'ai pas pu avancer. Tu sais, être honnête avec ce qui est vrai à propos de nous, dans sa présence. J'ai peur que le silence va me montrer ce que je ne veux pas entendre parce que psychologiquement, je ne suis pas habitué de faire ça. Fait que j'ai peur qu'il va y avoir une confusion qui va monter. Alors, d'être vrai avec Dieu puis de laisser après ça le silence faire son travail. Puis le Seigneur, il va faire quelque chose. Là. C'est sage d'écrire aussi sur une feuille tous les autres soucis, la peur, la honte, n'importe quoi. Ça peut être une douleur émotionnelle que tu as, que tu traînes, ça fait 3 jours, puis tu n'es pas capable de trouver ta quiétude avec Dieu et avec toi-même. Tu ne sais pas ce qui ne va pas en dedans, mais tu sais que tu es blessé. Et juste de se mettre à écrire, puis d'écrire la chose, dire, je me suis chicané avec mon père, il m'a dit une parole blessante, je pense que je vais être un bon bout de temps sans y reparler, ça me fait beaucoup de la peine. Puis là, tu vas fermer cette petite lettre-là, tu vas la mettre dans une enveloppe que tu pourrais appeler confiance en Dieu ou peu importe. Ton cerveau, il sait que c'est traité. C'est plus juste en suspens, c'est traité. OK, c'est traité pour une autre fois. Fait que je mets ça dans l'enveloppe, puis là, OK, y a-t-il d'autres choses qui me travaillent? Tu peux sortir des choses qui te travaillent, tes écrits, tes fermes, mais ça ne sera pas le temps dans le temps du silence pour aller creuser là. C'est dans le temps de ne plus se laisser distraire. OK? Et je termine avec ça. Oui, je termine avec ça. La peur cache un désir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? La peur cache un désir. Un désir qui ne sera pas comblé. Par exemple, le désir de sa présence, ben j'ai peur que je vais avoir de l'air fou puis que je vais être tout seul. Le désir d'avoir une communion avec Dieu, puis finalement, il n'y a rien. Donc, c'est la peur qu'il n'y ait rien. Le désir d'accomplir, il ne se passe pas grand-chose. Le désir de la paix, et je vais être troublé par ce que je vais découvrir. Donc, il y a cette idée-là que derrière nos peurs, il y a des désirs qui sont là. Hein? Et donc, la solitude, ça va être un temps pour s'approcher. Ah, c'est pas grave, je vais avoir plein de choses à dire pour mon prochain message. Conclusion. Au début de mon message, j'ai dit que ma notion de réussite, c'était souvent ce que l'homme accomplit. Que moi-même, j'ai été défié quand j'ai vu une personne, je me disais, okay, moi, dans le fond, là, dans la vie, c'est quoi je veux? Être connu pour quelque chose que j'ai fait avec mes mains ou pour ma façon que j'ai d'aimer? J'ai parlé de l'attraction que les gens ont lorsque eux-mêmes se sont laissés attirer par Dieu, sont devenus comme un genre d'aimant. J'ai parlé de ceux qu'on va se souvenir le plus après, c'est de ceux qu'on a mis les trophées dans une boîte puis les certificats, tu sais, pour refaire la peinture. Ou bien non, on va se souvenir de ceux avec qui on a connecté, avec ceux qui nous ont aimés. Et donc, mon message au début, j'ai commencé en disant que on a l'attention entre ce qu'on tente d'atteindre, ce qu'on fait, les résultats qu'on tente d'atteindre, et le résultat que Dieu est en train d'atteindre au travers de nous. Il est en train de faire de nous son succès. Puis que souvent, c'est de se laisser entrer dans cette intimité de sa présence pour s'ouvrir à son action qui est la clé de notre obéissance avec Dieu. Fait que je suppose qu'est-ce que ça l'a interpellé chez vous. Pour en reparler durant le rap. Fait que ça serait une bonne façon, là, vu qu'on a fini un petit peu comme... Je n'ai pas tout fini le message, on le finira ensemble durant le temps de dîner. Mais qu'est-ce que c'est venu vous dire? Est-ce que vous sentez qu'il y a une invitation de comme un ami qui attend son ami à l'aéroport, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vu, qui a hâte de vous voir, puis que vous avez des bagages dans les bras, puis Dieu veut juste que vous mettiez, prendre vos bagages, tasser les bagages, puis avoir un temps avec vous. Est-ce que vous sentez cette invitation-là? Reconnaissez-vous la résistance dans votre vie qu'on attend souvent? Tant qu'on est capable de mener notre barque, on ne prend pas notre relation avec Dieu si au sérieux que ça. Et c'est les crises qui nous amènent là. On n'est pas obligé. Dieu nous invite à être attirés par lui puis faire fermer les radios de nos vies, même nos pensées qui nous tiraillent, pour se reposer sur une voie qui est plus sûre, un poste de radio. Est-ce que vous vous sentez interpellé par cette invitation-là, au silence et à la solitude. Si ça vous tente, vous pourrez m'en parler durant l'heure du dîner. En attendant, on va finir avec un chant, et puis on va prendre la Sainte Cène. Le repas du Seigneur, c'est Jésus nous a demandé de prendre le pain et le vin, puis se souvenir de ce qu'il a fait. Et il veut qu'on prenne ça régulièrement en Église pour annoncer qu'à bientôt, on va être devant lui, puis on va le prendre avec lui, ce pain-là, qui représente son corps puis son sang qui a été versé. Merci.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.